au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour ce matin, mon cher Mathieu Tessier?
Ah ben là, je pense que je connais votre réponse. Est-ce que c'est parce que nous sommes à 4 mois d'un changement d'année?
Ah, je n'avais pas pensé, mais merci beaucoup. Donc,
c'est vous qui aimez faire les décomptes, là,
ah, ben oui, ben oui, c'est vrai, ça sera le 31 décembre avec le bye-bye, ça s'en vient. Je ne sais pas si on a déjà commencé à écrire les textes.
Sûrement.
Ça doit, ça doit. Ben, quatre fois bonjour aussi, parce que bien plein de monde que je sais qui nous écoute en direct d'un peu partout sur la planète. J'ai même quelqu'un à Paris qui nous écoute présentement, qui vient de m'envoyer un petit message pour dire « je t'écoute présentement, c'est gentil ».
Bonjour c'est-tu? Paris.
Bonjour Christophe. Mais oui, 31 août aujourd'hui. Déjà, c'est la fin de l'été qu'on dit l'été météorologique. C'est-à-dire qu'à partir de demain, c'est septembre et c'est le début de l'automne. Mais là, ne vous en faites pas. D'après les prévisions météo, cette semaine et pour le mois de septembre, il va faire encore beau. Hein? Il y a encore beaucoup de belles journées, beaucoup de temps chaud, peut-être moins humide. Ça va peut-être être beaucoup mieux pour nous. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, le sud du Québec, alternant soleil et nuages, du brouillard qui se dissipe en matinée, surtout dans le sud, genre en Estrie. Ennuagement graduel à partir du sud-ouest en fin de journée et au cours de la nuit. Il y a peut-être 60% de probabilité d'averse cette nuit. Et puis, si on s'en va un peu plus vers le centre du Québec, période d'ensoleillement entremêlée de passages nuageux. Alors, on est toujours dans des maximums autour de 24 et des humidex autour de 29. Saguenay-Lac-Saint-Jean, alternant soleil et nuages, temps généralement sec. Ben oui, pas d'humidex là-bas avec 21 degrés. Abitibi-Témiscamingue, pas d'humidex non plus. On est à peu près dans les nuages avec quelques éclaircies, 19 à 21. L'est du Québec, ben c'est des passages nuageux avec risque d'averses dispersées le long de la côte en après-midi. Maximum 18 à 20, pas d'humidex. Ah, ça, c'est le fun, hein? Par contre, dans les provinces de l'Atlantique, Nouveau-Brunswick, mélange soleil et nuages, risque d'averses en après-midi, 23, et puis c'est un 28 avec l'humidex. Nouvelle-Écosse, du soleil, des nuages avec des conditions généralement sèches. Donc, on est autour de 22 à 24, Île-du-Prince-Édouard 21 et Terre-Neuve et Labrador, peut-être de la pluie plus au Labrador, mais on est autour de 18 à 21. En Ontario, par contre, le sud, c'est des conditions instables. Le soleil va être là, mais le ciel, pardon, va être nuageux avec de la pluie. Risque d'orage avec un passage, lors du passage du système frontal. On est quand même dans des humidex autour de 30 à 32. Nord de l'Ontario, on est donc nuageux, possibilité d'averse 23 à 25. Province de l'Ouest, de Manitoba, alternant soleil et nuages, température chaude et on a un humidex autour de 28. Des nuages et averses locales en Saskatchewan, 18. Temps frais, nuages et faibles averses éparses 17 à 17 degrés en Alberta. Et c'est des nuages, quelques éclaircies le long de la côte en Colombie-Britannique, 16 à 18, pas d'humidex. Je pense qu'on va finir par arrêter d'en parler jusqu'à la saison prochaine. Alors, au sommaire aujourd'hui de notre émission, beaucoup, beaucoup d'entrevues. D'abord, la chronique insolite avec Louis de Bernis. Il sera question en Italie d'un homme qui construit son propre amphithéâtre grec antique et arnaque de nombreux touristes pendant des années. On a enregistré cette participation de Louis parce qu'il ne pouvait pas être avec nous ce matin, puis il tenait vraiment à faire sa chronique, puis on était très contents qu'il soit des nôtres, donc c'est enregistré. Et puis, on va recevoir Francis Dupuy-Déry pour parler de son livre « L'école champ de bataille ». Vous allez voir que c'est assez inquiétant ce qui se passe dans nos écoles, la montée donc de la haine, de l'extrême droite, de la misogynie, de l'homophobie, la transphobie, du racisme, bref, les saluts nazis à l'école, c'est des choses dont on va parler aujourd'hui. On rencontre aussi le cinéaste Ken Nguyen sur son documentaire « Une photo à Saïgon, coup de feu sur deux vies ». Ce sera aussi question de lumière, lumière, lumière au Théâtre Denis Pelletier et Jardin à espace libre avec la comédienne et dramaturge Evelyne de la Chenelière. Et enfin, on reçoit le directeur artistique sortant de l'Opéra de Montréal, Michel Beaulac, un retour sur sa carrière. 31 août, donc, aujourd'hui, ben c'est en 1963, le fameux téléphone rouge, qui est la ligne directe entre Washington et Moscou, devient opérationnel. Hein? Ça avait été mis en place pendant la crise des missiles de Cuba en 62. Donc, elle permet aux dirigeants des États-Unis et de l'Union soviétique, à l'époque, d'échanger rapidement sur une situation de crise et essayer d'éviter de s'envoyer des bombes nucléaires sur la tête. Alors, c'est pas un téléphone en passant. Ni un appareil rouge, c'est surtout un système de liaison utilisant des téléscripteurs. 1991, l'Azerbaïdjan, qui est le Soviet suprême donc d'Azerbaïdjan, adopte une déclaration sur le rétablissement de l'indépendance de la République de l'Azerbaïdjan. Et en 2021, c'est donc on va parler du Vietnam, mais une scène assez surprenante qui ressemble peut-être un peu à ce qu'on a vécu à la fin lorsque les États-Unis ont quitté le Vietnam, on se rappellera. Bien, en 2021, même chose, les derniers avions militaires des États-Unis quittent l'aéroport de Kaboul, mettant fin au retrait des forces américaines, donc forces états-uniennes d'Afghanistan, après 20 années de présence militaire. Ouais. Alors, c'est des scènes qui ressemblaient un peu à ces fameuses scènes du Vietnam. Et puis, nous, on s'en va en musique.
Qui me quitte avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour. Pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée. Sur un plateau de drap et de rayés qui fait rêver, j'inventerai des recettes de bonheur à volonté sur une musique venue d'un ciel de mai que tu ne voudras plus jamais quitter sans regretter. Dînerons de paroles et de rêves, nous goûterons à l'amour et l'eau fraîche. Et puis quand viendra le nouveau matin, on sera bien. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur du miel et de rosée sur un plateau. Jamais quitter sans regretter.
Des croissants de soleil, chanté cette fois par Guylaine Tanguay.
Dans le Journal de Montréal, aujourd'hui en une, le géant de la technologie Google a rapidement obtempéré à un décret exécutif signé par le président Trump en rebaptisant le lac Ontario sous l'appellation Lac d'Amérique sur son application Google Maps aux États-Unis, mais pas au Canada et ailleurs dans le monde où l'inscription Lac d'Amérique est en parenthèse sous le vrai nom, parce que c'est le vrai nom, du lac Ontario. Cette modification cartographique est survenue à peine 72 heures après l'annonce officielle de la mesure administrative adoptée par la Maison-Blanche dans la foulée d'une escalade verbale et commerciale majeure entre Ottawa et Washington. Le décret présidentiel faisait directement suite à l'imposition de contre-tarifs canadiens et aux virulentes critiques formulées par le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. En réplique à cette initiative états-unienne ou trumpienne, le premier ministre ontarien a manifesté son opposition sur le terrain en installant une affiche symbolique sur les rives canadiennes du plan d'eau, proclamant la souveraineté du nom original. Cette décision de Donald Trump, donc, suscite d'ailleurs de vives réactions politiques et citoyennes au pays, au Canada, stimulant des appels accrus au boycottage des produits états-uniens ainsi que la suspension des voyages aux États-Unis. Pour leur part, les analystes qualifient cet épisode de provocation rhétorique et de manœuvre symbolique, rappelant que les autorités des États-Unis ne disposent d'aucun pouvoir juridique pour imposer ce changement toponymique en territoire canadien. En une de la presse, près d'une école sur trois à Montréal se situe dans un îlot de chaleur, transformant les établissements en véritables fournaises lors des vagues de chaleur. Selon une enquête de la presse, des températures intérieures atteignant jusqu'à 37 degrés ont été enregistrées dans certaines classes, ce qui dépasse largement les paramètres de confort recommandés par le ministère de l'Éducation. Cette situation affecte directement la santé, la concentration et la réussite des élèves, particulièrement dans les quartiers défavorisés où les logements ne sont pas tous climatisés. Face à, à la vétusté et au réseau électrique désuet du parc immobilier scolaire, l'installation de climatiseurs demeure souvent impossible. Pour y remédier, une nouvelle chaire de recherche de l'École de technologie supérieure étudie des solutions durables, allant de la déminéralisation des cours d'école à la mise en place de mesures passives comme la pose de toiture blanche et le verdissement. Et le Journal de Montréal, toujours, un autre fiasco informatique de grande ampleur secoue le gouvernement du Québec alors que Santé Québec a englouti près de 500 millions de dollars en 3 ans uniquement pour maintenir à flot ses vieux systèmes de gestion des ressources humaines. Cette facture salée est 4 fois plus élevée que le coût initialement prévu pour le remplacement complet, une démarche pourtant mise sur la glace en 2023 à la suite d'erreurs de planification. Pour éviter une rupture de la paye et de la gestion des horaires du personnel, l'État a accordé 146 contrats, principalement de gré à gré, sans appel d'offres à des firmes privées. Santé Québec précise qu'un nouveau dossier d'affaires sera présenté pour relancer le remplacement de ces infrastructures technologiques vieillissantes. On s'en va en musique.
Que les doutes ont fait de notre vie. Et pourquoi on en est là aujourd'hui? La vie en vitesse de croisière, sans revenir en arrière, sans faute, sans tisse, sans danse, sans risque. Seulement l'amour pourra combler le vide. Mais moi j'ai peur de m'oublier trop vite. Il faudrait qu'on joue aux adultes, prendre nos petites habitudes. Mais faudrait qu'on respire. On n'a peut-être qu'une seule vie. Tu le verras toujours dans mes yeux. J'ai besoin de brûler mes envies. Et je sais pas ce que serait le mieux. On n'a peut-être qu'une seule vie. Ça suffit pas de le dire. Fait de notre vie, lui qui devait nous montrer le chemin. Je veux être un grand moi, pas une adulte. Non, je dis ça comme ça a l'air de rien. C'est mon amour pour combler le vide. Mais pourrions-nous rester toujours libres? Il faudrait construire une vie, pas sûr que j'en ai envie. Donc, je voudrais qu'on respire. On n'a peut-être qu'une seule vie. Tu le verras toujours dans mes yeux. J'ai besoin de brûler mes envies. Et je sais pas ce que serait le mieux. On n'a peut-être qu'une seule vie. Ça suffit pas de le dire.
Je pas sûr que je veux savoir. Pas sûr que je veux savoir.
Angèle, une chanson, une nouvelle chanson, une seule vie.
C'est le moment de notre chronique insolite avec Louis de Bernis, qu'on rejoint exceptionnellement au téléphone. En fait, on a enregistré cette chronique parce que Louis n'était pas disponible ce matin. Allô, Louis.
Bonjour, Denis Martin.
Alors aujourd'hui, on parle d'un homme en Italie qui construit son propre amphithéâtre grec antique et arnaque de nombreux touristes pendant des années.
Oui, c'est une insolite. Elle est un peu longue, mais elle vaut la peine vraiment. Tout est insolite du début à la fin. C'est une histoire qui dure depuis plusieurs années et qui s'est enfin terminée récemment. Alors, je vais vous la raconter. Elle est assez abracadabrantesque. Tout ça, ça se passe dans le nord de l'Italie. C'est une colline boisée de Vénétie, près de la ville de Vincenze, où on pouvait trouver un étrange vestige antique qui a, pendant plusieurs années, attiré pas mal de touristes très enthousiastes. On peut lire sur différents forums ou différents sites qui donnent des notes à ces sites antiques. Par exemple, un endroit enchanteur a écrit l'un d'eux sur TripAdvisor. Un autre écrivait sans aucun doute l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais visité. Un dernier écrivait unique au monde. Enfin voilà, toutes les critiques étaient assez dithyrambiques. Le lieu, le cadre, il faut imaginer des gradins en pierre, des colonnes, des statues étrangement bien conservées au passage. Et puis au bas de toutes ces marches, un petit bassin en plein milieu de la scène de l'amphithéâtre. Autant d'éléments qui en faisaient un site archéologique pour le moins intriguant. Pendant plus de 2 ans, au moins, c'est ce que la justice a établi, des touristes, des visiteurs ont payé pour découvrir ce supposé témoignage de l'Antiquité. Les tarifs variaient selon le public, c'est là qu'il y a une première chose étrange à noter. Donc les tarifs étaient de 12 euros pour les visiteurs extérieurs, les touristes, et les habitants de la région, eux, d'habitude, on propose des tarifs plus avantageux, mais dans ce cas-là, ils étaient peut-être dissuadés de venir avec un droit d'entrée à 40 euros. Première anomalie. Il y avait aussi, si vous vouliez, des visites privées proposées pour 600 euros les 45 minutes. Tout ça était des sommes présentées comme une contribution minimale pour l'entretien de ce site archéologique. Pourtant, rien de tout ça n'était antique. Selon les éléments présentés devant la justice au cours des dernières années, Franco Malosso, c'est le nom du propriétaire, avait à l'origine simplement obtenu l'autorisation d'aménager un garage sur la colline. Il a cependant fait appel à une compagnie de construction pour bâtir un théâtre. Au pied des gradins de pierre qui étaient artificiellement vieillis, l'Italien avait ajouté des colonnes en ciment, des statues en plâtre. Enfin voilà, tout ça était un beau décor. Et au centre de l'édifice, là où aurait dû se trouver la scène, il avait fait creuser un petit bassin très photogénique, il faut le dire, très facile à partager sur Instagram, mais pas du tout historique. Franco Malosso, qui est également connu sous le nom de Franz von Rosenfranz, parce qu'il y a eu tout un tas d'investigations, il y a eu des papiers dans lesquels il avait différents noms, différentes identités, a donné plusieurs noms aussi à son édifice. C'était parfois l'Amphiteatro Berico, l'Amphiteatro Marittimo Berico, enfin voilà, plein de noms différents. Il aurait organisé pas seulement des visites pendant ces 2 années, mais aussi des concerts, des spectacles, des conférences. En témoigne le site internet du soi-disant vestige antique. L'ensemble de ce site comportait pas mal d'incohérences, constatent aujourd'hui les spécialistes et ont constaté les spécialistes pendant les investigations. L'édifice n'était pas un amphithéâtre, dont la forme est généralement ovale d'abord, mais un théâtre en éventail qui n'a jamais été observé nulle part ailleurs. Surtout, ce qui aurait dû alerter tout le monde, l'idée d'un théâtre grec, parce que c'est comme ça qu'il était présenté, un théâtre grec au nord de l'Italie aurait dû déjà éveiller tous les soupçons, puisque ben, les Grecs n'ont, dans l'Antiquité, jamais colonisé des territoires aussi lointains que dans la région de Vincennes, dans le nord de l'Italie. Pour séduire son public, plus c'est gros, plus ça passe, hein, vous savez, l'Italien prétendait représenter légalement la société propriétaire du terrain, et il avançait même que des visiteurs aussi illustres que Jules César ou Cléopâtre avaient fréquenté le théâtre à l'époque, et même, ajoutons une autre histoire au passage, que Juliette Capulet, de Roméo et Juliette, personnage pourtant fictif de William Shakespeare, avait grandi dans une maison proche du site. Enfin voilà, tout était fait par Frank Masolo pour séduire et les visiteurs et les autorités locales aussi. Il faut souligner que l'Amphitheatro Berico a été inclus dans un guide touristique financé par l'Union européenne et par la municipalité. Il a donc réussi à berner beaucoup de monde. Finalement, parce qu'il y a quand même eu une fin à ces visites, c'était en 2016, la supercherie a commencé à avoir du plomb dans l'aile. Les forces de l'ordre, en octobre 2016, ont mené une inspection grâce au conseil local du patrimoine et des membres du patrimoine. Les carabinieri, la police, division spécialisée dans la lutte contre le trafic, le vol et la falsification d'œuvres d'art ont aussi été mobilisés. Les investigations, l'enquête sur place a duré seulement une journée, tant la supercherie était évidente, a rapporté le lieutenant-colonel qui était chargé de l'enquête, qui a dit n'avoir jamais vu ça en 25 ans de carrière, et qui était éberlué comme beaucoup. Les archéologues aussi ont été nombreux à dénoncer les supercheries, à pointer tout ce qui n'allait pas. Par exemple, la prétendue découverte à la faveur d'un glissement de terrain, parce que c'est comme ça qu'ils présentaient cet amphithéâtre, qu'un jour la montagne aurait eu un glissement de terrain et que l'amphithéâtre se serait dévoilé. Elle était incompatible avec les réalités d'une fouille archéologique et surtout, mettre à jour un tel amphithéâtre aurait dû prendre des années et des années avec des vraies fouilles archéologiques soigneuses. Il y a beaucoup d'informations donc qui ont circulé. Les professionnels ont expliqué à quel point tout cela était impossible et il y a donc eu un premier procès en 2019 que Franco Malosso avait à l'époque perdu. Il avait fait appel ensuite, son premier recours en 2020, perdu également. Et il s'était enfin pourvu à la Cour de cassation italienne, qui a également récemment rejeté son recours. Et c'est pour ça qu'on parle de cette histoire dans l'actualité récemment, c'est que tous les jugements, tous les recours ont été rendus. L'Italien est donc définitivement condamné. Il faut noter aussi qu'au cours de toutes ces procédures judiciaires, sa ligne de défense était la suivante. Il avançait que la supercherie était tellement grosse que personne ne pouvait croire réellement à son site et donc il prétendait que tous les visiteurs étaient au courant, que ça n'était pas un vrai site archéologique. Pourtant, c'est ce que son site internet n'a cessé de répéter depuis toutes ces années et répète encore. Si vous voulez aller voir, son site est disponible sur le blog. Il assure être au cœur d'une cabale, d'un complot. Il invite les gens à l'aider à lutter contre la mafia institutionnelle, demande 5 millions d'euros. Si jamais vous voulez lui faire un don, il y a ses identifiants bancaires. Enfin voilà, tout ça n'est pas très sérieux et on flaire l'entourloupe à mille lieues. Il a donc été condamné à de la prison. Il est en prison actuellement à 28 mois de prison. 3 000 euros d'amende également et 3 500 euros de frais de justice. La dernière chose, l'épilogue de toute cette histoire, c'est qu'il a été aussi condamné à détruire donc son site archéologique. Le problème, c'est que comme la colline est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne va pas pouvoir la détruire à coup de dynamite. Il va falloir faire des vraies fouilles archéologiques pour vérifier qu'il n'y a pas de vestiges antiques en dessous. Probablement qu'il n'y a rien, mais voilà, tout ce mensonge aura duré des années, fait couler pas mal d'encre. Et en tout cas, étape insolite du début à la fin.
En tout cas, il a certainement tout un talent de pouvoir berner autant de monde que ça. Hein?
Oui, absolument. Les menteurs, vraiment, on était éberlués une fois qu'on découvre l'envers du décor.
Voilà. Autre chose à ajouter, Louis?
Pardon?
Autre chose à ajouter sur ce sujet?
Non, ce sera tout. On le voit dans la presse, et puis vous verrez peut-être, j'en ai vu sur les réseaux sociaux récemment, beaucoup parlent de cette histoire qui est impressionnante et qui se termine donc après des années.
Bien, merci beaucoup. Nous, on prend une pause pour le lundi de la fête du travail, mais on sera de retour le 14 septembre. À très bientôt, Louis.
À bientôt.
Au revoir. Dans Le Devoir du 31 août 2026, dans une lettre d'opinion publiée, donc dans Le Devoir, Claudia Hernandez-Pérez, doctorante en psychologie, neuropsychologie à l'UQAM, se penche sur la réalité des intervenants pivots du réseau de la santé et des services sociaux. Ces professionnels chargés d'accompagner des personnes autistes ou vivant avec une déficience physique ou intellectuelle font face à des défis importants liés à la lourdeur des structures et à l'imprévisibilité de leur charge de travail. L'autrice rappelle que la qualité des soins repose sur un travail d'équipe efficace et une continuité des services, évitant ainsi aux familles d'avoir à assumer la coordination de leur propre parcours. Pour répondre aux besoins ciblés sur le terrain, une formation adaptée a été développée pour mieux clarifier le rôle des intervenants pivots. Madame Hernandez-Pérez souligne toutefois qu'une telle formation doit nécessairement s'accompagner de ressources suffisantes, de temps et d'un environnement de travail adéquat pour permettre aux intervenants et intervenantes d'exercer pleinement leurs compétences. Radio-Canada.ca, 29 août, deux semaines seulement après la relance par le gouvernement provincial, le programme d'adaptation à domicile pour les personnes handicapées croule sous les demandes. Plus de 1000 formulaires d'inscription ont déjà été déposés pour bénéficier de cette aide financière pouvant atteindre jusqu'à 50 000 $ par projet. Cette forte affluence survenue après plus d'un an de suspension du programme fait craindre d'importants délais de traitement et d'exécution des travaux. Les entrepreneurs spécialistes de l'Office des personnes handicapées du Québec accueillent ce retour avec soulagement tout en réclamant un financement pérenne pour éviter de futures interruptions de services, alors que 21 % de la population québécoise, donc une personne sur cinq, vit avec une certaine forme d'incapacité. Et puis après la pause, on va parler donc de ce livre, L'école champ de bataille, avec son auteur Francis Dupuy-Déry. Vous allez voir qu'il y a des choses quand même assez troublantes à lire et bon, il y a quand même aussi des bons côtés là, qu'on découvre heureusement dans ce livre, donc qui a été publié tout récemment chez Lux. Et on va aussi parler avec Anne Nguyen sur son documentaire Une photo à Saigon, coup de feu sur deux vies, tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On était jeunes, on était fous. On remettait tout à l'heure sans rendez-vous. À mille à l'heure, au jour le jour. On voyait la vie se dessiner devant nous. Et tu m'as touché le cœur. Quand t'étais le seul qui pouvait me comprendre. Et tu m'as touché le cœur. Si c'était à refaire, je le referais encore. Don't get me wrong, je pense que t'en valais la peine. Quand on avait rien à perdre, quand on était dans la merde. Maintenant je suis gone, je sais que je t'ai fait de la peine. En attendant ton appel, je joue de la musique dans les veines. Dis-moi si c'est de l'amour. En train. Dis-moi si c'est de l'amour. En train. J'ai tout appris avec toi, à travers les hauts libres. Je me suis trompé bien souvent, puis je t'ai fait mal quelques fois. Mais là je t'entraîne mon pied pour te faire passer en premier. J'ai beau chercher une solution, je t'en ai trouvé des raisons.
La chanson « Don't get me wrong » de Phil Roxkett.
Ouais, ben c'était à glacer le sang. Des insultes misogynes au salut nazi, à des drapeaux de la fierté brûlée, au harcèlement et à la violence envers les personnes trans, la montée du masculinisme et la haine dans nos écoles, c'est inquiétant. Selon une enquête britannique menée en 2024, là, c'est pas ici, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe, Alors, c'est une enquête qui est citée dans l'ouvrage. 80 % des élèves interrogés ont déclaré avoir été témoins de propos homophobes en milieu scolaire. 80 % En parallèle, alors que des mouvements réactionnaires dénoncent la soi-disante propagande omniprésente, les témoignages d'enseignants au Québec indiquent que le temps réellement consacré en classe aux enjeux de sexualité, d'identité de genre, se limite bien souvent à moins d'une heure durant toute l'année scolaire. Alors, dans son ouvrage intitulé « L'école, champ de bataille », publié chez Lux Éditeur, le professeur et chercheur Francis Dupuy-Déry s'intéresse aux attaques antiféministes et antidiversité qui secouent le milieu scolaire. Nous le recevons aujourd'hui pour faire la lumière sur ces tensions qui traversent nos écoles. Ah, mon Dieu, Francis Dupuy-Déry, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Ah, pourquoi qualifier... Ben, en fait, oui, on a la réponse, mais on va poser la question quand même. Pourquoi qualifier aujourd'hui l'école de champ de bataille?
Ben justement parce qu'il y a tous ces tensions et cette violence, on va appeler ça de la violence hein, quand même,
verbale. C'est violent, ce qu'on lit, c'est violent. Là, oui.
Dans l'école, par des élèves sexistes, homophobes et transphobes. Et puis dans le livre, donc en fait, le livre est très simple, hein, il est divisé en seulement deux chapitres.
Ouais.
Le premier chapitre, donc le deuxième chapitre, c'est sur ces jeunes-là.
Mm-hmm.
Et que font-ils, qui sont-ils, pourquoi feraient-ils de telles choses? Et le premier chapitre, c'est sur les adultes. Donc, ce que je montre, c'est aussi en portant attention surtout à trois pays, donc ici, le Québec, la France et les États-Unis, parce qu'on est influencé, il y a des choses similaires qui se passent, et bon, bref, il y a des idées même mauvaises qui circulent, il y a de l'imitation, c'est qu'il y a des adultes, donc c'est un chapitre sur les adultes sont mobilisés contre l'école, contre, en fait, ce qu'ils pensent être une sorte d'endoctrinement des jeunes, hein, et c'est pas nouveau.
Ouais.
Dès qu'il est question de sexualité à l'école, depuis 100-150 ans, ça fait polémique, que ce soit à l'époque, on appelait ça, je pense, l'hygiène sexuelle, donc les cours d'hygiène sexuelle au tout début du 20e siècle, là, c'était des cours de biologie dans le fond, un peu de mécanique, mais dès qu'on parle de sexualité à l'école, il y a des adultes qui s'enflamment, et donc j'ai montré que l'adulte en chef, donc Donald Trump, est un peu une figure emblématique de ce mouvement réactionnaire, mais qu'il y a bien des associations, des groupes de parents catholiques, d'autres politiciens qui sont mobilisés contre, principalement en fait contre ce qu'ils appellent l'idéologie du genre à l'école.
Moi, j'ai des gens que j'entends là, on s'entend là, mais j'entends déjà des gens me dire l'adulte en chef. Bon, on va laisser les gens réfléchir là-dessus. Alors, c'est les adultes qui sont responsables de ce qui se passe dans les écoles.
Ben oui et non. En fait, moi, c'est sûr qu'on est enfant, qu'on est adolescent, on est influencé par les parents, par les adultes aussi, pas seulement les parents. Mais moi, je défends quand même la thèse que, en fait, ces adultes-là, ils créent un contexte social général parce qu'ils contrôlent les institutions, ils contrôlent les gouvernements, ils contrôlent les médias. Il y a des multimilliardaires, on le sait. Elon Musk est très réactionnaire sur ces questions-là. Il est raciste aussi, mais il a renié sa fille trans. Donc, des journalistes, des polémistes influents. Mais je pense quand même que les jeunes, surtout les jeunes garçons hétéros qui commettent ces violences, ont aussi une part de responsabilité. Ils ne sont pas simplement l'influence, la transposition de ce que pensent leurs parents à l'école. Ils ont aussi leur propre volonté, leur propre motivation. Et je le répète souvent, j'imagine qu'on le sait bien ici, mais qu'il n'y a pas de meilleure manière, et je le dis entre guillemets, pour un garçon hétéro de prouver qu'il est hétéro à soi-même et aux autres que de maltraiter des filles et des jeunes garçons que je vais dire efféminés ou en tout cas hors normes. Ça existe depuis vraiment longtemps et c'est pas un phénomène nouveau. Mais ça, évidemment, ça se densifie là, depuis quelques années à cause du contexte.
Qu'est-ce qu'on peut dire qui a changé? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on avait fait des progrès vis-à-vis ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, la manière d'évaluer les progrès, ça dépend où on met le curseur du temps. Donc, dans les 2-3 dernières années, c'est pas juste moi, vous connaissez le GRI, évidemment,
oui.
des formations, en fait, de l'animation par des personnes concernées dans les écoles, des binômes, généralement, de personnes de la diversité, et qui l'ont constaté aussi. Il y a eu des études sur les opinions, les préjugés, les stéréotypes des jeunes, plusieurs études, le sexologue Martin Blais, la sociologue Gabrielle Richard, bref, plein d'autres au Québec qui travaillent là-dessus depuis des années, montrent que depuis quelques années, ça s'est crispé. Moi, ce que j'essaie de regarder, c'est les actions. Mais évidemment, si on met le curseur un peu plus loin dans le temps, donc au début des années 90-2000, en fait, on est quand même dans une école, dans un environnement scolaire qui est quand même beaucoup plus progressiste et inclusif et égalitaire que les années 70, ou si on remonte encore plus loin, les années 20, les années 30, évidemment, on n'est plus là. Et en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que le, je dirais, je dis pas tous les enseignants enseignantes, mais je dirais les programmes scolaires en général, même au niveau de l'UNICEF, de l'UNESCO, les programmes officiels, ils sont plutôt pour le respect des élèves, le respect de leur dignité, le respect de la différence, l'inclusion. Et donc, il y a un progrès général, mais ces jeunes garçons-là qui sont sexistes, homophobes et transphobes dans l'école, des fois, ils ont même l'impression, en fait, qu'ils sont des rebelles, qu'ils se rebellent contre les valeurs officielles de l'école.
Et puis, ils ont l'impression d'être minorisés, alors que c'est pas tout à fait le cas, là.
Exact. Et là, ce qui m'a vraiment troublé, ça, c'est parce qu'en fait, ce livre-là, c'est une version, disons, différente hein, d'un rapport qui a été produit avec la Fédération autonome de l'enseignement. C'est une recherche que j'avais menée dans les dernières années. Le rapport avait été lancé en février. Le livre, c'est autre chose, mais évidemment, ça s'inspire de ce rapport-là. Et dans la conclusion du livre, je rappelle des réactions négatives qu'on avait reçues à la sortie du rapport, dont des polémistes, des animateurs d'émissions de radio, pas celle-ci, pas sur Canal M, là, mais dans d'autres médias qu'on n'aimera pas.
Ici, on est une radio qui... On est dans les faits. Exact, on n'est pas dans les opinions.
Pour pas leur faire de la publicité, mais pas seulement sur une tribune. On a vu des animateurs qui, en fait, félicitaient les jeunes garçons par rapport à ce que je disais dans les médias ou
leur comportement,
le rapport. Ils disaient, vous comprenez, là, c'est comme mon fils ou les garçons d'aujourd'hui, ils sont tannés, ils sont écœurés, pour reprendre leurs mots, de se faire rentrer dans la gorge encore pour reprendre leurs mots, le féminisme, la diversité sexuelle et des genres. Ils disaient donc, c'est une saine réaction, et j'ai même entendu sur une radio des animateurs qui disaient « bravo les garçons », alors que ce qu'on décrit, là, les faits qui sont rapportés, c'est ce que moi j'appelle de la persécution, en fait. Ces jeunes, les jeunes de la diversité, les jeunes filles, sont persécutés carrément par leurs camarades.
On va prendre un petit moment pour le dire, là. Il y a des effets, il y a des conséquences à cette persécution
Évidemment. Que
subissent ces jeunes personnes de la diversité, entre autres, le suicide.
Puis
on le note, là, dans le livre.
Oui. Ça, c'est pas moi qui l'ai documenté, c'est documenté depuis longtemps par d'autres chercheurs et chercheuses. Tout à fait. Bon, la baisse d'estime de soi, c'est évident. Un sentiment d'aliénation dans l'école, donc évidemment des problèmes scolaires possibles. C'est vrai aussi pour les filles hétéros, hein, qui peuvent aussi être intimidées, harcelées, tout ça. Et pour les jeunes de la diversité, ça, c'est bien connu. Et oui, malheureusement, effectivement, tu fais bien de le dire, ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires et même malheureusement jusqu'au passage à l'acte.
Et il y a aussi des meurtres qui ont été commis. On l'a vu peut-être
pas
plus
au Québec.
Pas au Québec, mais aux États-Unis, entre autres.
En Angleterre aussi. Et des cas de suicide qui sont liés à ces situations-là qui ont été rapportés par les médias aussi. Donc mais les cas de meurtre sont complètement hallucinants. Il y a un cas, entre autres, évidemment, c'est totalement exceptionnel, mais disons que ça montre jusqu'à où ça peut aller. Et les deux jeunes qui avaient tué à plusieurs coups de poignard leur camarade parce qu'ils étaient trans ont été condamnés. Le juge a nommé que c'était un crime haineux contre les trans.
Bon, on va essayer d'avoir quand même un petit peu de lumière dans tout ça, parce que face à tout ce mouvement d'extrême droite conservateur qui s'organise, il y a quand même de la résistance qui, elle aussi, s'organise tant chez les élèves que chez les professeurs ou le personnel.
Oui, absolument. Donc, moi, j'aime bien... Bon, là, je vais spoiler un peu la fin du livre, je suis désolé, mais...
Non, je pense qu'il faut. Il se marie
pas à la fin, mais j'aime bien finir avec une touche d'espoir. Donc, en fait, il y a deux touches d'espoir, je dirais, dans le livre. Il y a la fin, je rappelle, en fait, des bonnes pratiques au niveau de la pédagogie de l'enseignement qui m'ont été partagées par des enseignants enseignantes. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a des jeunes, soit des jeunes directement concernés ou des jeunes solidaires qui se mobilisent aussi, qui peuvent faire des manifestations, qui peuvent protester, qui peuvent faire des fois des contre-manifestations quand il y a des manifestations haineuses. Et puis, le livre s'ouvre par une préface d'une personnalité célèbre.
Barbada.
Barbada. Donc, la drag queen Barbada, qui avait été, on se rappelle, là, au printemps 2023, sur la rive sud de Montréal, elle faisait une lecture de contes pour enfants, puis il y avait eu une manifestation contre. Ça, c'est quelque chose que je documente, là, qui a lieu aussi dans d'autres pays, souvent avec d'ailleurs des néo-nazis dans les manifestations, malheureusement. Et donc, je lui ai demandé d'écrire une préface, et disons que c'est une préface lumineuse, porteuse d'espoir, vraiment optimiste par rapport à l'intelligence individuelle et collective des jeunes hein, aussi. Et donc, ça fait du bien.
Puis j'aimerais rappeler aussi la journée du chant d'Aéro. Ça a quand même été une initiative.
J'en parle dans les
voix. Oui, ce qui est intéressant, qui est une initiative de la Nouvelle-Écosse. Un élève qui dit, on en a assez de voir nos amis se faire intimider. On va tous porter un chant d'Aéro hein, pour soutenir cette personne. Et ça a pris une ampleur, c'est presque partout au pays. C'est mondial maintenant. Oui. Alors, il y a quand même des bons côtés à tout ça. Puis je pense que ça fait du bien aussi, quand on termine la lecture, de voir ça. Francis Dupuy-Déry, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette recherche et de venir nous en parler ici à Canalem, à l'émission Au quotidien. Merci beaucoup.
Bon courage.
Que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi la vieille empire et le train de mes yeux brillés. Dis-moi mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères.
La chanson « Bonjour Vietnam » de Dong Lan.
Deux familles vietnamiennes au destin marqué par la guerre découvrent des pièces du casse-tête de leur passé dans une photographie légendaire. C'est la toile de fond d'un documentaire touchant. Une photo à Saigon, coup de feu sur deux vies qui prendra l'affiche à compter du 4 septembre et qui a déjà remporté des prix notamment au Hot Docs International Documentary Festival et puis au Doxa Documentary Film Festival à Vancouver et qui est en sélection officielle et candidat au prix Tim Hetherington au Sheffield International Documentary Festival au Royaume-Uni. Alors pour en parler, nous recevons le cinéaste Kim Nguyen. Kim, bonjour.
Bonjour.
Alors, je pense qu'on va rentrer là-dedans tout de suite. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette célèbre photographie d'Eddie Adams qui a été prise en 1968, l'exécution de Saigon. Puis je vais le répéter, c'est une photo qui a valu au photographe un prix Pulitzer et qui a été nommée photo de l'année 68 au World Press Photo.
Ben oui, c'est mon collègue et journaliste Dimitri Katadotis qui est venu me voir avec une histoire complètement touchante et impressionnante. C'était que son ami avait, quand il regardait la photo Saigon Execution, pour lui, c'était pas une photo historique, c'était une photo de famille. Parce que son père était là, et sur la planche contact, pour ceux qui sont plus jeunes que moi, une planche contact, c'est une série de photos c'est qu'on imprime toutes les photos d'un rouleau de film et on voit toutes les photos sur une planche contact. Et donc, dans une des photos, il y avait son père qui était présent pendant l'acte. Et donc, c'était quand même une opportunité pour moi, à la fois quand même de recreuser un peu dans mes racines, les racines de mon père, et puis aussi de... Vraiment, a priori, c'était moi, c'est à titre d'auteur documentariste que je voulais d'aller d'un point de vue humain et personnel face à une histoire, à une photo aussi historique, m'interpellait beaucoup.
Faudrait peut-être décrire un peu la photo. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo?
C'est une photo tristement célèbre parce que Eddie Adams avait, je pense qu'il avait seulement un rouleau de film pendant ce moment-là et il a juste pris des photos et il a capturé le moment tragique où le moment où un officier de l'armée du Sud Vietnam abat un officier de l'armée du Nord Vietnam. Et on suppose que pendant le cliché, la balle est malheureusement encore dans la tête de la personne qui est exécutée.
Ouf.
Ouais, c'est une photo dure à regarder.
Une photo qui avait quand même marqué l'histoire parce qu'à partir de ce moment-là, je pense que le mouvement anti-guerre du Vietnam est monté aux États-Unis. Mais là n'est pas le propos du film. Le propos du film est beaucoup plus sur les gens qui ont été affectés, à commencer même par le photographe lui-même, qui quelque part a dit qu'il regrettait cette photo.
Oui, effectivement, parce que la guerre du Vietnam est remplie d'ombre et de complexité. Et Eddie Adams était un fort supporter de l'intervention américaine à la guerre. Et puis, il voulait vraiment aider les gens et le peuple du Sud et l'armée du Sud. Donc, il sentait qu'il avait comme trahi un peu ses croyances. Et il dit, en fait, la phrase la plus forte de Eddie Adams, c'est qu'il a senti qu'il a capturé deux assassinats. En fait, il a tué la personne qui est tuée sur la photo et la personne qui l'a tué lui-même. Il a tué la vie de la personne qui tient le revolver dans la photo, selon lui.
Ouf, oui, c'est quand même fort. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que cette photo-là, vous avez... c'est un point de départ où on lit le destin de deux familles vietnamiennes.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, effectivement, le grand luxe qu'on a à titre de documentariste, ben, c'est ce que je découvre, c'est que je me permets, contrairement à un mémoire de maîtrise, je me permets une subjectivité, c'est-à-dire que j'ai senti que le documentaire, en étant subjectif et en se penchant sur des vies personnelles qui sont liées à la photo, ça me permettait d'explorer le hasard du destin qui fait que il y a des vies très différentes et qui méritent d'avoir une voix. Et donc, c'est ça. D'un côté, on a suivi une femme qui était l'épouse d'un des soldats qui était présent au moment de l'exécution. Et de l'autre côté, on a réussi à suivre les enfants de la personne qui est exécutée dans la photo.
Sans aller dans tous les détails, parce que je pense que je n'aimerais pas qu'on divulgâche ce qui se passe dans le film.
Divulgâche, j'utilise pas souvent ce mot-là, j'aime ça.
Bon, c'est bon. Alors, vous abordez la mémoire et la recherche de vérité chez des personnes qui portent encore les traumatismes de la guerre. Puis je trouve ça vraiment important de comment vous vous êtes pris pour avoir la confiance de ces gens nécessaires pour aborder là, ces thèmes qui sont très, très personnels et très à fleur de peau pour ces gens-là aussi.
Oui, je pense que je pense que de base, je me rends compte au fil des années, on ne suit pas qui on est. J'ai une âme de gamin. J'ai un enfant de 5 ans un peu dans mon cœur.
Nous sommes nous tous.
Je pense que dans les éléments, quand je veux couvrir un phénomène tragique, ça permet un certain voile pudique à travers, à travers ben, juste qui je suis. Mm-hmm. Et donc, je leur ai aussi dit très, très clairement que je voulais pas faire un film politique sur qui a raison, qui a tort. Je voulais vraiment faire un film sur la guérison et l'exploration des rituels qui peuvent permettre la guérison. Et puis, donc, c'est du côté vietnamien de l'histoire qui se passe au Vietnam. C'était ça qui les a interpellés puis ils nous ont accueillis à bras ouverts.
Oui, parce que là, il y a une personne... Je pense qu'on appelle ça, cette personne appelle ça un chercheur de corps ou un chercheur d'âme.
Chercheur d'âme, oui. Effectivement, une des choses les plus importantes que je voulais faire après avoir entendu qu'il voulait, dans la croyance, dans le, le, dans les rites bouddhistes, une des choses très, très importantes, c'est de trouver le lieu où le corps est mort pour pouvoir libérer l'âme et qu'elle se sorte de son cycle de damnation éternelle. Donc, j'ai demandé à trouver un chercheur d'âme au Vietnam pour essayer de localiser le lieu où le corps a été enterré ou abandonné dans une fosse commune, c'était possible aussi. Donc, probablement qu'il aurait été abandonné dans une fosse commune. Et rapidement, ce qui était vraiment beau, c'est que on a trouvé deux chercheurs d'âme. Un avait plus l'énergie pour faire ça parce qu'il disait que ça lui demandait beaucoup, beaucoup d'énergie psychique de faire ce travail-là. Et l'autre nous a dit, écoute, si on parle de libération, les chances que je retrouve le lieu restent très faibles. Et l'idée, c'est quoi le plan B à quelque part, en d'autres mots, là? Il dit, comment est-ce qu'on peut trouver une façon qu'on peut régler ça plus simplement et de donner la libération aux deux enfants qui étaient très jeunes, puis ça fait 56 ans, puis c'est étonnant comment la douleur persistait en eux.
Ah oui, oui, la scène est tellement touchante à ce moment-là, oui, c'est vrai. En fait, c'est étonnant, puis ça ne l'est peut-être pas aussi, parce que c'est quand même un drame épouvantable, et surtout à la lumière de cette photo. J'aimerais qu'on parle quand même des deux familles qui sont reliées. Vous avez trouvé quelqu'un aux États-Unis et vous avez trouvé quelqu'un au Vietnam, c'est ça, qui sont reliés par deux... Oui, c'est ça.
Exactement, oui, puis effectivement, bien, en fait... C'est une famille, je dirais, montréalo-américaine, parce que, en fait, le premier lien qu'on a eu pour parler de cette photo-là, c'était Charles, qui est le fils de Lee. Mmh. Lee, c'est la femme d'un des officiers de l'armée du Sud. Et Charles habitait avec Lee à Montréal au début de leur périple. Et puis, de fil en aiguille, Lee est rendu à Seattle, proche de Seattle, puis Charles reste encore à Montréal.
D'accord.
Et puis Lee, elle, ce qu'elle voulait, c'était pas nécessairement la libération d'une âme, parce que c'était pas son trajectoire. Elle voulait juste dire les faits de façon complètement candide, sans penser à qui ça allait blesser ou pas. Elle voulait juste dire sa vérité. Et puis... Une des choses que je trouve dans les films qui traitent de la guerre du Vietnam du passé, c'est qu'on n'a vraiment pas assez donné la voix aux femmes vietnamiennes de quelque côté du pays, de quelque que ce soit du nord ou du sud. On les a traitées un peu en objet. Des fois, les films américains traitaient c'était des prostituées ou des victimes sans agent, sans capacité d'agir, alors que la guerre du Vietnam est complètement... C'est vraiment le contraire. Les femmes étaient un agent très actif dans l'évolution de la guerre et de son histoire.
J'ai juste le temps de parler de cet autre personnage que j'ai trouvé fascinant. Vous avez travaillé avec un journaliste français d'origine vietnamienne. Oui. Parle-nous un peu de ce personnage.
Alors, Doom, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un qui flow, je dirais, perdu l'anglicisme, oui. dans la vie... Il est en mobylette, il se promène comme dans l'espèce, je compare ça à un aquarium, les mobylettes au Vietnam, là, s'il n'y a pas de ligne droite, tout le monde se faufile, puis c'est comme, il faut juste pas s'arrêter, sinon c'est là qu'il va y avoir un accident, on va dans le flow. Puis ce qui m'a surpris dans la vie de Saigon, c'est que c'est que j'aurais cru, je m'attendais à une vie plus cartésienne, mais elle est très... très sinueuse, en fait, dans la façon de vivre, dans la façon de... Ça se reflète dans le trafic, puis dans la façon d'être, dans la gestion du Parti communiste et la quête spirituelle, souvent bouddhiste, comme, a priori, le mouvement communiste interdit la religion, mais là, il faut trouver une façon de faire fonctionner les deux. Puis Doon, qui est un intellectuel qui a appris le français, puis qui vient de toute cette génération-là de colonisation française, c'est vraiment ça. Il joue de la guitare électrique, c'est un grand érudit, puis en même temps, il chill sur sa moto au milieu de Saigon.
On va devoir conclure là-dessus, Kevin Nguyen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le documentaire, donc, une photo à Saigon, coup de feu sur deux vies, sort en salle le 4 septembre. Merci.
Merci d'avoir regardé le film.
Dans showbiz.net du 28 août, José Lito Michaud partage des nouvelles rassurantes concernant son état de santé. L'animateur et auteur québécois avait révélé souffrir de troubles neurologiques fonctionnels. Il a indiqué sur les réseaux sociaux que sa situation s'améliore progressivement grâce aux ajustements apportés à son rythme de vie et au soutien de sa famille. Il poursuit actuellement ses activités professionnelles avec la préparation d'un projet documentaire portant sur la réalité de sa maladie. Et il prépare également un retour ponctuel à la télévision et à l'animation, entre autres, d'une émission qui s'appelle « Pour une fois », diffusée à Télé-Québec. Et puis après la pause, on rencontre Évelyne de la Chenelière, qui est dramaturge et comédienne, pour parler de deux pièces de théâtre qui seront présentées, deux pièces qu'elle a écrites qui seront présentées cet automne. Et aussi, on va parler avec Michel Beaulac, qui est directeur artistique sortant de l'Opéra de Montréal. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
La dramaturge et comédienne Évelyne de la Chenelière vit un début de saison théâtrale exceptionnel. Elle propose ce mois-ci deux créations d'envergure, Lumière, Lumière, Lumière au Théâtre Denise Pelletier et Jardin à Espace Libre. Et nous la recevons ce matin. Bonjour Évelyne.
Bonjour.
Alors dites-nous, dans Lumière, 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 vous vous inspirez librement du roman Vers le phare de Virginia Woolf. Comment cette matière littéraire s'est-elle transformée pour la scène?
Bien, j'ai vraiment eu envie de la laisser se déposer en moi, cette matière-là. Non seulement le roman lui-même, mais je dirais même toute l'œuvre de Virginia Woolf et le regard qu'elle pose sur le monde, sur les hommes, sur les femmes, sur ce qui nous survit, sur le paysage, sur la nature, sur le temps. Et j'ai extrait du roman, qui était très peuplé, deux personnages, Madame Ramsay et Lily Briscoe, pour les mettre en jeu toutes les deux, alors qu'en fait, elles ne se parlent pas beaucoup dans le roman. Mais là, j'ai eu envie d'extraire ces deux femmes-là qui, dans mon interprétation, me faisaient penser à deux possibles parts de Virginia Woolf qui se complètent, se déchirent, s'attirent et se repoussent en même temps.
Ce que je retrouve souvent dans l'œuvre de Virginia Woolf, personnellement, puis je ne vais pas minimiser, mais il y a deux thèmes que je retrouve intéressants. Je ne sais pas s'ils se retrouveront dans la pièce. La place des femmes dans la création et notre rapport avec le temps. Est-ce qu'on retrouve ça dans votre pièce?
Bien, tout à fait. C'est très, très bien cerné. Oui, les questions de la place des femmes, comme sur cette lutte pour accéder à un terrain qui est a priori réservé aux hommes, et donc le territoire de la création, mais aussi de la pensée, de la philosophie, de la réflexion sur l'existence et sur le temps aussi, puisque il est toujours question de que faire du temps qui passe, hein, comment s'en saisir, comment des fois le retenir ou au contraire le précipiter pour être ailleurs et autrement. Donc, il y a tout un jeu, oui, autour du temps dans la création théâtrale que je propose.
Alors, cette pièce marque aussi la toute première coproduction entre la Comédie-Française et le Québec, si je ne me trompe pas. Et c'est avec une mise en scène de Florence Hio qu'on a vu beaucoup de ses productions ici au théâtre, notamment au TNM récemment. Qu'est-ce que ce pont entre les deux continents apporte à l'interprétation de votre texte?
Mais c'est sûr que quand un texte rencontre une autre culture de travail, un autre regard qui est rechargé parce qu'il est aussi avec beaucoup moins d'historique que par exemple les metteurs en scène ou les comédiens à Montréal ou même le public à Montréal commence à connaître mon travail. Il y a une grille de lecture qui s'installe inconsciemment sur ce que je fais chez les gens qui me connaissent un peu, tandis que là, c'est cet objet-là qui est regardé en lui-même et pour lui-même. Alors ça c'est vrai que ça recharge le regard, puis c'est une autre façon de l'aborder, une autre façon de le porter aussi. C'était très émouvant pour moi de découvrir ce que que ces comédiennes françaises en ont fait lors de la création à Paris.
Oui. En parallèle, parce que le temps file, je veux qu'on parle aussi de votre autre texte qui s'appelle « Jardin », qui est présenté à Espace Libre.
Oui.
Là-dedans, si j'ai bien compris, le théâtre devient comme une serre vivante. J'ai lu 1700 plantes sur scène. Alors, de quelle manière ce paysage végétal va-t-il modifier ou pas le travail des comédiens et l'expérience du public?
Bien, c'est le pari, justement, c'est que cette présence vivante est mise en scène et concentrée de tant de végétaux qui font donc un jardin entre les murs du théâtre, a un impact sur l'expérience à la fois des spectateurs, des spectatrices, parce que on est devant du vivant. C'est l'inverse d'un décor. Hein. Mmh. Le théâtre, d'habitude, cherche à créer l'illusion de tel ou tel environnement. Et là, c'est l'inverse. C'est le théâtre qui accueille quelque chose qui ne représente rien d'autre que ce qu'il est. Donc, on est devant du vivant. Il y a une sorte d'énergie qui parle à tous les sens. Je veux dire, une telle quantité de plantes, ça modifie le taux d'humidité, l'odeur dans la salle. Il y a vraiment une force très, très vibratoire qui nous parvient. Puis les comédiens, la pièce et le spectacle est conçu de manière à ce que les comédiens jouent avec ce jardin-là. C'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas dans un décor qui représenterait un jardin, mais tous les gestes et toute la parole qui se déploie sur scène est impulsée par la présence végétale. Ce sont les végétaux qui font penser et parler. C'est vraiment à l'aune de cette vie végétale que se déploie la pensée sur scène. Alors, en tout cas, c'est vraiment une expérience qu'on souhaite déstabilisante par rapport à nos habitudes de spectateurs et spectatrices.
C'est votre conjoint, Daniel Brière, qui signe la mise en scène de Jardin, dans laquelle on retrouve notamment Christine Beaulieu, une comédienne quand même très connue. Alors, comment s'est articulé ce travail autour de ses partenaires de scène et, comme je dis, d'un genre particulier que sont les végétaux?
C'est vraiment un travail d'humilité aussi, parce que il y a évidemment les acteurs, les actrices ont une partition à défendre et sont mis en lumière, mais à la fois la présence dominante est vraiment celle des plantes. Alors c'est une façon de penser le théâtre dans un dialogue où il y a moins de hiérarchie que d'habitude. Tu sais, c'est un peu décentralisé, c'est-à-dire que c'est pas les acteurs qui brillent dans un décor, mais ce sont des vivants, une sorte de matière commune, un continuum de matière vivante qui dialogue ensemble le temps de la représentation. Il y a aussi un élément particulier, c'est que pour nous, le jardin signifie la promenade. Donc, les spectateurs sont invités à circuler durant la représentation, à changer de point de vue, changer d'angle pour justement vivre l'expérience du jardin en promenade, en déambulation. Évidemment, il y a quelques bancs de parc là pour ceux qui ont besoin de s'asseoir, mais en gros, les acteurs doivent être conscients qu'ils jouent pour à 360 degrés dans une situation d'écoute qui est pas la même que lorsqu'on est assis face à une scène.
Donc, on ne fait pas tomber que le quatrième mur, on fait tomber les trois autres murs en même temps.
Ça
fait
Exactement.
Je me reste un petit peu de temps. Je veux revenir parce que j'avais une question à poser sur cette autre pièce. Donc, Lumière, 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 ça a été joué déjà en France. Comment a été la réaction du public jusqu'à ce moment-là?
Ah, c'était vraiment au-delà de tout ce que j'avais imaginé. La réception publique et critique a été tellement chaleureuse, tellement enthousiaste. Ils ont joué à guichet fermé. C'était vraiment une rencontre où quelque chose s'est passé. J'étais contente aussi de constater parce que c'est très important pour moi dans cette pièce-là, et tout comme l'œuvre de Virginia Woolf, c'est vraiment traversé d'un humour, d'une ironie qui peut vraiment faire rire, faire sourire, même si les thèmes abordés sont parfois sombres ou torturés. Il y a vraiment une rencontre entre le tragique et le comique qui, quand ça fonctionne, je trouve vraiment rend cette pièce-là telle que je l'ai pensée, telle que je la ressens moi-même. Et puis j'ai pu constater que l'humour parvenait vraiment très, très bien aussi. Alors, ça m'a réjoui.
À la Comédie Française, c'est tout un beau théâtre. Je suis allé voir souvent des pièces là-bas dans mes passages à Paris. J'ai vraiment aimé. Très, très content pour vous, Évelyne, d'avoir pu vivre cela. Et je rappelle aussi que la version en livre de la pièce Le Jardin, oui, sera publiée aux éditions Les Herbes Rouges. Merci beaucoup, Évelyne de la Chenelière, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et les deux pièces de théâtre sont présentées au Théâtre Denise Pelletier pour Lumière, Lumière, Lumière et Espace Libre pour Le Jardin.
Je vous remercie beaucoup.
Merci. C'est un court extrait c'est le deuxième acte de cet opéra qui s'appelle Les Feluettes, qui a été présenté à l'Opéra de Montréal. Vous avez entendu sa voix, je vais vous présenter tout de suite. Il s'appelle Michel Beaulac, directeur artistique de l'Opéra de Montréal, qui va quitter ses fonctions en octobre.
Oui,
tout à fait. Ça arrive vite. Alors, j'ai quand même une petite présentation à faire parce que je pense que c'est important de savoir que Michel Beaulac, c'est un pilier de la scène culturelle québécoise et canadienne, une figure incontournable qui s'apprête donc à tourner une page majeure de sa carrière. Profondément ancré dans sa communauté, il a été décoré de l'Ordre du Canada, récipiendaire du prix Ruby d'Opéra Canada. Il laisse un héritage artistique majeur marqué par l'audace, la création et la modernité. Il est avec nous aujourd'hui pour jeter un regard sur son parcours qu'on peut dire exceptionnel. Bienvenue à l'émission.
Je suis ravi d'être ici.
Bien, on est ravis de vous recevoir. Quand vous observez le chemin parcouru depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, quel est le cœur, quel est le legs le plus important que vous souhaitez transmettre au public, à l'Opéra de Montréal et à son public?
En fait, je tiens à noter que je suis né à Pointe-Saint-Charles.
Oui.
Et donc, le parcours d'un petit gars qui vit dans une famille extraordinaire, mes parents étaient extraordinaires, mais on était quand même de revenus modestes, et que ce garçon-là se retrouve directeur artistique à l'Opéra de Montréal, c'est comme un parcours presque impossible. On le croirait, mais ça prouve finalement que tout le parcours, les 37 ans que j'ai vécu à l'Opéra de Montréal et la direction artistique prouvent que finalement l'opéra, ça s'adresse à tout le monde, que tout le monde y a véritablement accès. et que les jeunes artistes, les talents d'ici, les concepteurs, les artisans, les créateurs, les compositeurs ont leur place à l'Opéra de Montréal. Alors, c'est mon projet, c'était mon projet, puis d'une certaine façon, je pense que j'ai réussi.
C'était de ramener l'opéra à ce que c'était, parce qu'on va s'entendre que quand on a commencé, quand l'opéra a été créé, dans le temps, c'était un art public. C'était même regardé un peu de haut par les gens plus haut dans la société.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça s'adressait à tout le monde et puis on revient finalement aux sources de cette forme d'art-là.
Pour le plaisir d'une anecdote, vous êtes devenu directeur artistique, vous êtes allé à l'Opéra de Montréal après une entrevue que vous avez faite à la radio avec la personne qui était là, qui était directeur artistique. Oui, alors, je veux dire, moi, je n'ai pas les compétences, fait que pensez pas à moi pour vous remplacer.
Non, mais on ne sait jamais. Hein. Tout est possible, j'en suis la preuve.
Alors, sous votre gouverne, l'institution, l'Opéra de Montréal, a fait le pari de la modernité. On a présenté des œuvres d'envergure, des œuvres contemporaines d'envergure. Je pense à Dead Man Walking, Silent Night, Aïn Adamar. Alors, comment ces œuvres ont changé l'opéra tel qu'on le connaît?
Bien, en fait, c'est des regards sur la société, les compositeurs, les créateurs, les dramaturges qui présentent, les librettistes qui présentent ces œuvres-là, qui collaborent pour présenter ces œuvres-là, parlent de sujets d'aujourd'hui, parlent de thèmes qui sont proposés par la société, par les climats sociaux, par la société. Alors, dans la douzaine et plus d'œuvres créations que j'ai présentées, que nous avons présentées à l'Opéra de Montréal, que j'ai initiées d'une certaine façon, ce sont des œuvres qui parlent de tout et entre autres, un sujet qui est certainement d'actualité dans les 15-20 dernières années, c'est la diversité. Alors, il y a plusieurs œuvres que j'ai présentées et sans le vouloir absolument, ce sont des sujets qui s'imposaient au monde de l'art lyrique. Alors, on a cité les Féluettes.
Les Féluettes, dont on a entendu un extrait. Il y a eu aussi
La beauté du monde,
La Reine Garçon.
La Reine Garçon aussi.
Magistrale.
Oui. Alors, c'est l'histoire de Christine de Suède et qui s'affranchit de son devoir de reine pour vivre sa vie à la fois sur le plan sensuel, sexuel, amoureux, philosophique. Alors, elle abandonne la Suède pour vivre sa vie comme elle l'entend, pour la vivre pleinement. Donc, ce sont tous des thèmes qui sont très, très, très contemporains aujourd'hui.
Ce ne sont pas toutes les œuvres qui en ont parlé, mais de ces trois œuvres, en fait, La Reine Garçon en particulier, et puis aussi Les Féluettes, on a donc vu une ouverture affirmée aux questions de la diversité sexuelle et de genre. Pourquoi c'est important, cette ouverture-là, pour vous?
Parce qu'on est dans la contemporanéité, on vit aujourd'hui, et ce sont des valeurs immenses, importantes, que la société, que les membres de la diversité ont tenté de proposer à la société, ont choisi de défendre. Et c'est la diversité aujourd'hui, c'est une réalité et c'est une valeur, finalement, un enrichissement à la société qui fait que la société, je crois, est meilleure, est plus inclusive, est plus ouverte. Et c'est un enrichissement, finalement, pour la société que la diversité. Et ce thème-là revient dans 7 ou 8 des propositions artistiques que j'ai proposées à l'Opéra de Montréal.
Les amis avec lesquels je vais à l'Opéra, on s'est tous dit, mon Dieu, on se voit sur scène. Parce que bon, les gens qui me connaissent savent que moi, je suis ouvertement une personne queer qui vit dans cette communauté. Et on s'est vus sur scène, on s'est reconnus, on s'est entendus. On s'est rigolé, mais on s'est pleuré aussi. Quelle a été ça, c'est la réaction que je vous donne, mais c'est une réaction qu'on vous a donnée?
Ah oui, tout à fait. C'est les gens, en fait, peu importe l'orientation sexuelle ou peu importe le public, tous les publics ont été émus par cette histoire d'amour-là parce qu'elle racontait un amour authentique, un amour sincère entre Simon et Vallier, deux collégiens qui doivent s'affranchir auprès de la société du temps dans les années 50. Donc, c'était un parcours que je crois que beaucoup de gays, de gens de la diversité ont vécu. Alors, les gens qui étaient de la diversité dans la salle ont été certainement très émus, mais aussi les gens qui sont, qu'on dirait, de mœurs sexuelles ou d'orientation habituelle qu'on rencontre beaucoup plus dans la société et qui ont été très émus par cette sincérité-là, par la musique de Kevin March qui était très émouvante. On en a entendu quelques mesures en début de rencontre et aussi par le texte de Michel Marc-Bouchard qui est un grand, grand dramaturge, peut-être le plus grand dramaturge des 10-15 dernières années au Québec et m'a fait l'honneur, qui m'a fait confiance dans cette proposition que je lui faisais de monter les Feuillettes en opéra avec Kevin March. Donc, c'était... je lui dois... j'ai une dette incommensurable à Michel Marc-Bouchard. C'est un ami et un très grand collaborateur de la compagnie.
Et en fait, il y a eu aussi La Reine Garçon, c'était de lui.
Oui.
La Beauté du Monde,
oui,
c'était de lui.
Trois, les trois. Trois, oui. Wow.
C'est important pour vous de mettre de l'avant des artistes, des créateurs, des œuvres québécoises?
En fait, c'était mon projet comme directeur artistique. Et oui, c'est important parce que la compagnie, l'Opéra de Montréal, ça s'appelle l'Opéra de Montréal. Et Montréal est au Québec et représente en très grande majorité la majorité francophone ici. Donc, c'est une compagnie... Qui c'est son devoir de présenter des œuvres d'ici, des artistes d'ici, des chanteurs, des artisans d'ici. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas autrefois. On en voyait très peu. Les artistes qui étaient présentés à l'Opéra de Montréal étaient presque uniquement que des chanteurs. Et encore parmi ces chanteurs-là devaient faire leur preuve en Europe avant de pouvoir chanter à Montréal parce que ça prenait le sceau européen pour dire ce sont des grands chanteurs, donc on peut donc les présenter sur la scène à Montréal. Et c'est des récriminations ou des plaintes que je recevais que j'entendais quand j'étais enfant, adolescent, de grands chanteurs de l'époque qui disaient on a peu de place à l'Opéra de Montréal. Même, il n'y avait même pas d'opéra avant les années 80, avant la fondation de l'Opéra de Montréal. Donc, pas un règlement de compte, mais c'est
le juste retour des choses,
peut-être? Le juste retour des choses. Que les chanteurs et artistes et tout, à tous les niveaux d'une création, d'un opéra, puissent se retrouver sur scène. Maintenant, on a des œuvres qui sont d'ici aussi.
Alors, vous allez quitter vos fonctions en octobre.
Oui.
C'est quoi les émotions qui vous habitent à ce moment-ci?
Peu de tristesse, peut-être un petit peu, je vais certainement vivre une certaine nostalgie, mais une grande fierté d'avoir accompli, je pense, des choses qui étaient nécessaires ici, à Montréal. J'en parle depuis une dizaine de minutes, là. Donc, c'est d'avoir une grande fierté du devoir accompli, je pense, et puis des promesses qui sont là à réaliser pour la compagnie. La compagnie a changé beaucoup d'équipe au cours des 37 années que j'ai passé à la compagnie. Et Jean-Pierre Premiani, qui est le directeur général, est un gars très, très, très dynamique, est entouré d'une équipe formidable. Et je sais que dans les prochaines années, des grandes, grandes créations sont à l'horizon et vont faire le plaisir des amateurs d'opéra et de la société en général, de la compagnie.
Ah, Michel Bollard, quel plaisir de vous avoir accueilli ce matin. Merci beaucoup. Puis, on vous souhaite, je ne sais pas si ça va être une retraite ou certainement des projets qui s'en viennent, mais on vous souhaite donc...
D'autres projets.
D'autres projets. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le ciel tisse une couverture en laine, l'été prépare ses quartiers d'hiver. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai. À
allons rêver sur les bords de la Seine, s'il reste encore quelques petits coins verts, et si le fond de l'air est frais, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En passant mon bras autour de ton épaule, et si malgré mon bras, la brise travaille à bien jouer son rôle, tu prendras mon chandail. Si le temps, malgré mon chandail de laine, venait troubler le calme de ta chair, en te serrant tout contre moi, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Mais si le vent soufflait à perdre haleine, nous irions vite abriter notre amour, et blottis dans notre grenier, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Je fermerai fenêtres et persiennes, je bouclerai la porte à double tour, et en faisant une flambée, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En offrant au feu tout le bois qu'il réclame, et s'il manque du bois, je mettrai aussi nos meubles dans les flammes, ne gardant que le lit. Mais si le froid contre nous se déchaîne, et si le feu ne t'aide aucun secours, par la chaleur de mon amour, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Le ciel tisse une couverture en laine, le soleil fuit lorsque l'hiver paraît, mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai.
Ah, ce cher Charles Aznavour, il n'y a que lui pour réussir à de si belles chansons, de si belles poésies. Et pourquoi je vous ai fait jouer cette chanson? Parce que je voulais souligner le retour de ma collègue, et j'oserais même dire de mon amie Hélène Denis, qui revient au micro demain à cette émission. Et je veux la remercier de m'avoir permis pendant un mois, en fait, de remercier Canal M. C'est un privilège d'avoir un micro, d'avoir une tribune. C'est un privilège d'avoir la confiance des gens. C'est un privilège d'avoir la confiance des auditeurs, des auditrices. Et j'avoue, à chaque fois que je suis ému quand je vais remplacer pendant l'été Hélène à cette émission, c'est un privilège. Je suis ému à chaque fois. Je me dis, mon Dieu, bien, encore à mon âge, je sais, hein, je le dis, j'ai 65 ans, c'est peut-être pas si vieux que ça, mais d'être encore capable, d'avoir encore l'occasion, le privilège, l'opportunité d'animer et le plaisir d'être là. Et puis le plaisir aussi de travailler avec toi, Mathieu, c'est vraiment génial. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir accompagné, toi et Maurice aussi. Merci. Et ben c'est ça. Alors, je voulais souligner le retour d'Hélène et qu'on est très content qu'elle soit là. Puis je pense que c'est pas nous qui allons la réchauffer, c'est elle qui va nous réchauffer avec sa belle voix et sa présence chaleureuse. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci à toute l'équipe de Canal M. Merci à Mathieu Tessier d'avoir été avec moi. Et merci aussi à Maurice Bolduc qui était là pendant quelques semaines. Moi, de mon côté, je vais prendre quelques semaines de vacances. Je retourne en ondes le 14 septembre prochain à l'animation de cette émission, l'édition du lundi. Et ce sera le retour de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.